Vous écoutez RFI, il est 22h, ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal En français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, les affrontements dans le Haut-Karabakh. Alors le Haut-Karabakh, c'est une région séparatiste d'Azerbaïdjan, soutenue par l'Arménie. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées depuis hier dimanche. Et aujourd'hui, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a apporté son soutien à l'Azerbaïdjan, vous l'entendrez.
C'est la fête la plus importante du judaïsme aujourd'hui. Yom Kippour se tient dans un contexte particulier avec la pandémie de coronavirus et les habitants d'Israël qui sont à nouveau confinés.
Et puis Uber, qui pourra continuer à exercer à Londres pendant au moins 18 mois. C'est ce qui ressort d'une décision en appel de la justice britannique. Une nouvelle bataille remportée donc par la société américaine de réservation de voitures.
Le journal en français facile.
Les combats se sont poursuivis ce lundi dans la région du Haut-Karabakh.
Oui, région séparatiste située à l'ouest de l'Azerbaïdjan où vivent en majorité des Arméniens. Donc le conflit oppose les forces d'Azerbaïdjan aux forces arméniennes. Et c'est un conflit qui dure depuis longtemps, depuis près de 30 ans. Et régulièrement, il y a des regains de tension. C'est donc le cas depuis hier, dimanche. Les combats les plus meurtriers se produisent depuis 2016. Plus de 60 personnes ont été tuées en 2 jours, selon des bilans qui restent incomplets. Et ce conflit pose question car les puissances régionales ont un rôle à jouer. Et en premier lieu, la Turquie. Ankara, ennemi de l'Arménie, soutient donc l'Azerbaïdjan. Et le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a pris la parole aujourd'hui pour le rappeler. C'est la correspondance d'Anand Lauer.
Dans son premier discours depuis la reprise des combats dans le Haut-Karabakh, Recep Tayyip Erdogan n'a pas appelé une seule fois à l'apaisement et à un cessez-le-feu. Au contraire, le président turc a rappelé que son pays était prêt à soutenir par tous les moyens, je cite, le pays frère et ami qu'est l'Azerbaïdjan.
Le temps est venu pour que cette crise qui a commencé avec l'occupation du Haut-Karabakh prenne fin. Aussitôt que l'Arménie aura quitté le territoire azerbaïdjanais qu'elle occupe, la région retrouvera la paix et la sérénité.
Recep Tayyip Erdogan s'en est ensuite pris aux 3 médiateurs du groupe de Minsk, la Russie, les États-Unis et la France, accusés d'avoir tout fait pour ne pas résoudre ce conflit depuis 30 ans. Le président turc a donné entièrement raison à Bakou.
L'Azerbaïdjan, vous avez demandé de résoudre ce problème. À qui appartiennent les territoires sous occupation ? À l'Azerbaïdjan. Estimant que l'heure des comptes était arrivée, l'Azerbaïdjan n'a pas eu d'autre choix que de prendre les choses en main.
La Turquie, par la voix du porte-parole du parti au pouvoir, a en revanche fermement démenti les accusations de l'Arménie qui faisait état de l'envoi par Ankara d'armements et de mercenaires dans le Haut-Karabakh. Anand Lauer, Istanbul, RFI.
Et à noter que le conflit donc dans le Haut-Karabakh sera au programme d'une réunion d'urgence à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU, demain mardi, à la demande de plusieurs pays européens.
Emmanuel Macron veut s'impliquer davantage dans la crise en Biélorussie.
Le président français est en visite en Lituanie depuis aujourd'hui. Il doit rencontrer demain la chef de file de l'opposition, Svetlana Tsikhanouskaya, qui désormais vit en exil en Lituanie. Une grande partie de l'opposition, d'ailleurs, a trouvé refuge à l'étranger. Ce n'est pas le cas de Svetlana Alexievitch, écrivaine, autre figure du mouvement pro-démocratie, qui vivait en Biélorussie. Mais ce lundi, l'une de ses amies annonce son départ pour l'Allemagne. Svetlana Alexievitch doit recevoir des soins médicaux et donc elle a quitté la Biélorussie. Explication Heike Schmidt.
Les forces de l'ordre surveillaient et harcelaient Svetlana Alexievitch depuis des semaines. Le prix Nobel obtenu en 2015 n'a donc pas pu protéger cette écrivaine âgée de 72 ans, confrontée à des menaces à cause de son engagement pour une transition démocratique. À la fin du mois d'août, alors qu'elle est convoquée par la police et refuse de s'y rendre, Svetlana Alexievitch déclare à la presse, je cite, « Les autorités essayent de nous faire peur, mais nous ne sommes coupables de rien. Nous voulons juste juste vivre en liberté. Membre du conseil de coordination formé pour promouvoir une transition pacifique, elle se trouvait en première ligne de la révolte contre l'autocrate Alexandre Loukachenko. Parmi les 7 membres de ce conseil, Svetlana Alexievitch était la seule encore en liberté et en Biélorussie, les 6 autres étant soit arrêtés, soit contraints à l'exil, comme Svetlana Tikhanovskaya, le visage le plus connu du mouvement de contestation réfugiée en Lituanie. Pour autant, Svetlana Alexievitch a fait savoir qu'elle ne renoncera pas à son engagement politique et qu'elle quitte son pays uniquement pour des raisons médicales. Dans un mois, l'écrivaine compte bien revenir à Minsk.
Aïkol Schmitt.
Direction à présent Israël où l'on célèbre Yom Kippour ce lundi.
Oui, c'est la fête la plus importante du judaïsme. Pour les croyants, c'est une journée de jeûne et de prière. Et à cette occasion, le pays fonctionne au ralenti. Les transports en commun sont arrêtés. Les déplacements en voiture sont extrêmement rares. Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, la fête est un peu gâchée car depuis la semaine dernière, l'ensemble de la population d'Israël est à nouveau confinée. Alors les habitants célèbrent comme ils peuvent Yom Kippour, quitte parfois à ne pas respecter strictement les mesures. C'est un reportage à Tel Aviv de Guilhem Deltey.
Ashley Milner et Daria Tachov sont assis sur un banc face à la mer Méditerranée. Les deux jeunes femmes portent une tenue de sport. Cette pause conclut une séance d'exercice physique sur le front de mer. C'est conforme aux consignes gouvernementales, souligne-t-elle, mais Ashley Milner relève que l'application des règles de confinement est très souple.
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une application aussi stricte que lors du premier confinement. Je crois que la police aussi en a assez de ces règles. Ce n'est pas que le coronavirus n'est pas un sujet important, mais tout le monde, je crois, a perdu la confiance placée dans le gouvernement et s'en moque.
Habituellement, ces deux trentenaires respectent les traditions de Kippour, la fête du grand pardon. Elles jeûnent notamment durant toute la journée. Mais cette année, ajouter des restrictions religieuses au confinement était trop dur, juge Daria Tachov.
Cette année, nous avons décidé de ne pas jeûner. Car c'est dur déjà de se sentir comme en prison, ou plutôt qu'on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit.
Toutes deux tiennent également leur téléphone en main. Conformément aux règles religieuses, Daria Tachov s'en passe habituellement pendant cette journée de fête, mais 2020 est une année exceptionnelle.
Je pense que Dieu me pardonnera, parce que les temps sont difficiles.
Sur Twitter, le chanteur Aviv Geffen estime même que cette année, c'est Dieu qui doit demander pardon. Guilhem Deltey, Tel Aviv, RFI.
L'économie à présent, Romain, avec une nouvelle bataille judiciaire remportée par Uber.
Oui, Uber, la société de réservation de voitures. Ce lundi, un tribunal de Londres se penchait sur une décision de la capitale britannique, décision de suspendre le permis d'Uber pour des raisons de sécurité. Mais Uber avait fait appel et Uber a gagné ce lundi. En appel donc, la société pourra continuer à exercer à Londres pour 18 mois. Explication, Altine Lazage.
Pour le juge du tribunal de Londres en charge du dossier, Uber a pris les mesures nécessaires pour rendre ses services plus sûrs pour les passagers. L'autorité des transports londoniens lui avait retiré en novembre dernier son permis pour des raisons de sécurité. Elle estimait notamment que le système informatique de la plateforme ne permettait pas d'éviter le travail des conducteurs sans permis ou sans assurance. Uber a toutefois continué d'exercer dans l'attente de la décision de justice. Une décision qui a exacerbé la colère des chauffeurs de taxi qui voient d'un mauvais œil la concurrence des chauffeurs d'Uber. La firme californienne est en effet très implantée à Londres où elle compte 40 000 conducteurs et plus de 3,5 millions de clients. Cette victoire judiciaire n'est pas une première pour Uber. La plateforme de réservation en ligne avait déjà été privée d'exercer en septembre 2017 par la ville de Londres pour les mêmes raisons, mais la cour d'appel lui avait reconduit son permis pour 15 mois.
Et cette victoire va faire du bien à Uber, durement touché par la pandémie de coronavirus. La société américaine a enregistré au deuxième trimestre, tenez-vous bien, une perte d'$1,8 milliard.
On va passer au tennis avec la deuxième journée de Roland-Garros.
Oui, à nouveau, sous un temps très très mauvais, à retenir la qualification pour le deuxième tour de l'Espagnol Rafael Nadal, vainqueur 12 fois du tournoi. Qualification également de Dominic Thiem. Grosse déception côté français avec l'élimination de Gaël Monfils. Un mot du match marathon du jour, défaite du français Corentin Moutet, 18-16 au 5e set. Après plus de 6 heures, de matchs. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Sylvie.
Merci Romain.
Jean-Philippe Thury ce soir à la réalisation, 22h10 ici à Paris.